8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Les villes ont-elles un genre? On peut se poser la question car quand on y regarde de plus près, elles semblent conçues pour des usages majoritairement masculins. Des transports pas forcément pratiques avec des bébés, des bistrots pas toujours mixtes, des rues mal éclairées qui peuvent créer un sentiment d'insécurité. 83% des Européennes dites éviter de se retrouver seules dans certains endroits publics. Alors que les smart cities de demain doivent se réinventer pour être plus écologiques, comment les aménager pour qu'elle soit aussi plus inclusive. On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Corinne Luxembourg.
Et bonjour.
Vous êtes géographe, professeure en géographie et aménagement à l'Université Sorbonne Paris-Nord, fondatrice de l'association Les Urbaines qui développe justement la recherche scientifique et citoyenne. C'est important le mot citoyen en études urbaines. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie prise de conscience, et on en parlera plus tard, des élus, des pouvoirs publics par rapport à ces villes plus égalitaires?
Oui, depuis quelques années, ça commence vraiment à prendre de la place et à faire partie des programmes municipaux et à faire partie aussi des inquiétudes des élus. Oui, oui, tout à fait.
On en reparlera avec vous. Nous sommes également en ligne avec Alicia Lugan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste, directrice France chez Equal Sari, une agence d'urbanisme et d'architecture qui est créée en Espagne. Agence féministe, hein?
Oui, absolument.
Voilà, et vous nous direz en quoi justement l'approche du genre et de l'enfance, parce que c'est souvent lié, ça fait partie aussi des enjeux des architectes. D'ici une quinzaine de minutes, nous serons en ligne avec Gwendolina Duval, la correspondante de RFI au Mexique, et nous verrons quelles sont les mesures politiques pour lutter contre les violences sexuelles, notamment à Mexico. En fin d'émission, on ira en Albanie. Là-bas, la fédération de foot se veut plus inclusive pour les filles, même si d'ailleurs il y a encore des progrès à faire pour les équipes sportif mixte en ville. Un reportage signé Tom Malky. Et vous, bien sûr, qui nous écoutez, est-ce que vous vous sentez en sécurité ou pas dans vos villes? Est-ce qu'elles sont adaptées à vos besoins et trajets? On attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
On existe ensemble, et justement comment les femmes existent aussi dans les villes, et la vraie première question aussi qui se pose, il y en a plein en termes d'autonomie, c'est la question de la circulation et de la mobilité. On sait que les trajets des femmes ne sont pas totalement exactement les mêmes que ceux des hommes. On parle des doubles, triples journées, les transports pour aller au travail, pour déposer les enfants. Ça c'est une vraie première question, Corinne Luxembourg, dans réinventer les villes pour qu'elles soient plus accessibles, la mobilité.
Oui, la question de la mobilité, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à penser quand on parle de genre, mais pas seulement, bien sûr. Pouvoir se déplacer, ça fait partie de nos besoins d'être humain et nos besoins de mammifères, tout bête, qui a besoin d'aller d'un point à un autre. Et on est d'abord des êtres mobiles. Et donc, penser nos déplacements en toute sécurité, avec fréquence, avec la possibilité de se déplacer avec des courses, avec des enfants, etc. Alors évidemment, ça va concerner principalement les femmes, mais n'importe qui a besoin de se déplacer, parfois chargé. Voilà, on a tous fait l'expérience avec des grosses valises ou avec des poussettes. À partir du moment où on pense la mobilité comme étant un déplacement de corps humain qui peut être augmenté d'autres choses ou d'autres personnes. Ouais. D'un coup, ça pose la question de la mobilité différemment.
C'est ça. Et d'ailleurs, ça pose aussi la question de l'accessibilité de certains transports publics. On ne disait pas adapté forcément aux poussettes ou autres. Quelque part, ça renvoie aussi aux femmes qui peuvent être mères aux problématiques des personnes handicapées aussi en ville, Alicia Lugan. Ou c'est pas forcément pratique pour les fauteuils roulants ou autres.
Bah, effectivement, l'intérêt de la perspective de genre dans l'aménagement, c'est que les femmes, ayant encore aujourd'hui largement le rôle de ce qu'on appelle le care, à savoir s'occuper des enfants, des personnes en situation de handicap, des personnes seniors, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel d'ailleurs, quand on voit les statistiques des personnes professionnelles qui sont dans le soin. Et donc, à ce titre, quand on veut améliorer l'expérience urbaine des femmes, on se pose nécessairement la question de l'expérience urbaine des gens qu'elles accompagnent. Et effectivement, la question de l'accessibilité, d'une meilleure prise en compte du handicap est une des premières questions dans les sujets de prise en compte du genre dans l'aménagement. Et c'est des questions d'accessibilité, mais j'irais même au-delà, c'est aussi des questions de comment est-ce qu'on prend plaisir à pratiquer la ville en ayant... alors moi, ils ont un terme en Espagne que j'aime beaucoup, ils parlent de diversité fonctionnelle et pas de handicap.
Diversité fonctionnelle, oui.
Exactement, diversité dans les manières de penser, dans les manières de se déplacer, etc. Et donc comment est-ce que, au-delà de la question pure de l'accessibilité PMR que souvent les concepteurs prétendent d'ailleurs très bien connaître et très bien inclure, ce qui est parfois contestable, comment est-ce que pour une personne qui est malvoyante, on conçoit aussi l'espace à partir du toucher, du son, des odeurs. C'est aussi la question de plaisir de pratiquer un espace selon toutes ces diversités fonctionnelles, au-delà de la question seule de l'accessibilité, qui est une question en soi, évidemment, fondamentale. Ouais.
Vous parlez des femmes qui travaillent dans le care, le soin, le domicile. On pense aussi à toutes les femmes qui travaillent loin des villes, dans les quartiers, à la périphérie, qui ont des horaires décalés. Je pense aux femmes de ménage, par exemple, qui doivent venir travailler dans les bureaux, dans nos bureaux, mais qui arrivent bien plus tôt. Là encore, avec toute la galère des transports publics. Ça aussi, c'est une vraie question genrée aussi. Corinne Luxembourg, vous qui travaillez aussi avec beaucoup d'élus dans les quartiers populaires.
Oui, mais de toute façon, on voit bien qu'à partir du moment où on prend cette seule question du soin et cette seule question de l'entretien de nos espaces de vie, on pointe là tout un tas de choses et d'inégalités. Et là, tout de suite, on peut parler de questions d'intersectionnalité parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas que la question du genre qui entre en ligne de compte. Il y a la question des classes sociales et il y a aussi la question de la racialisation. C'est-à-dire que les personnes qui viennent faire le ménage dans nos bureaux, que ce soit ici à RFI ou que ce soit dans nos universités ou n'importe où ailleurs, la plupart du temps, ce sont des personnes racisées qui viennent effectivement bien avant que nous on arrive et puis qui reviennent aussi quand nous on est déjà partis. Ça veut dire que leur journée de travail, elle est fractionnée et donc on les oblige à être dans deux mouvements de situation de transport. Et ces personnes-là, effectivement, elles ont des petits revenus. Et donc, pour se loger, on sait très bien que ce n'est pas dans les centres des métropoles qu'elles vont pouvoir habiter. Et donc, elles vont se retrouver en banlieue, voire même parfois en banlieue
très lointaine. Qui se recule de plus en plus avec les prix des loyers.
Et donc, prix des loyers, transport en commun qui se raréfie au fur et à mesure qu'on va loin. Et donc, ça rallonge d'autant plus la journée de travail si on prend en compte le temps de transport. C'est aussi des transports qui sont à la fois moins réguliers et puis qui vont souffrir aussi de pannes, qui vont souffrir de retards, de choses comme ça. Et donc là aussi, on voit bien tout ce que ça va engendrer. Et ces mêmes femmes qui peuvent se retrouver parfois en situation de monoparentalité, on va leur dire « Ah, mais qu'est-ce que vous faisiez quand vos gamins ils faisaient un peu des bêtises le soir ?»
Les fameux parents défaillants. Hein. Et il y a eu pas mal de polémiques là-dessus
c'est
pour un autre sujet. Oui.
Et c'est encore souvent aux mêmes personnes qu'on va dire non seulement elles ont des revenus qui sont plus bas, non seulement elles tapent des transports qui sont interminables, mais en plus de ça, on va leur faire porter la responsabilité de ne pas être à plusieurs endroits en même temps.
Déjà que...
et le don d'ubiquité, déjà, on aimerait bien parfois l'avoir, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on ne l'ait pas. Mais il y a vraiment une accusation sur ces personnes-là et sur ces femmes-là en particulier. Et on voit bien que la question du logement, elle devient... aussi un enjeu de mobilité aussi.
Ouais, encore beaucoup de boulot à faire en termes de... Là, il va falloir que les urbanistes planchent davantage. Je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de la RDC.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Et nous sommes avec Princesse qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Princesse.
Bonjour Laurence.
Merci d'être avec nous. Alors, vous nous entendiez certainement parler des transports qui ne sont pas forcément adaptés pour tous et pour toutes. Je crois que c'est le cas aussi à Kinshasa, hein, chez vous, non ?
Oui, à Kinshasa, il y a des transports adaptés pour tout le monde, sauf qu'il y a des fois, il n'y en a pas assez. Il y a des jours où il n'y a pas assez de transports, mais on fait face avec.
Ouais. C'est quoi ? C'est les bus ? C'est comment vous faites, vous, quand vous allez travailler ou pas ? Comment vous faites ?
Bon, déjà, quand je pars au travail, c'est soit je prends de bus en commun ou des motos-taxis aussi, parce qu'il y a des motos-taxis et des bus en commun, parce que je n'ai pas une voiture, bien sûr, donc on prend toujours des bus en commun.
Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité ? Parce qu'on va en parler beaucoup tout au long de cette émission, mais est-ce que c'est une ville qui est sûre, Kinshasa, pour les femmes ? Comment vous vous sentez ?
Oui, pour les problèmes de sécurité, il y en a forcément. Il y a des moments où vous terminez les travaux peut-être à 19h-20h et vous devez normalement rentrer à la maison et arriver à des arrêts de bus, il n'y a pas assez de transport. Et du coup, en ces moments-là, il ne faudrait pas rester isolé. Par exemple, il faut toujours marcher en groupe, ne pas allumer son téléphone lorsque vous arrivez à des endroits où vous savez vraiment qu'il y a l'insécurité. Toujours garder son téléphone dans les sacs éteints, pas allumé. Et ne pas être tenté de recevoir un appel à des endroits comme ça.
Ouais, ça, c'est ce que vous me avez conseillé. Quand des fois vous vous retrouvez toute seule et que vous marchez, vous éteignez le téléphone pour ne pas vous faire repérer, hein, c'est ça ?
Exactement. On éteint les téléphones pour ne pas être repéré de loin. Et parce que si vous avez votre téléphone allumé, de loin, on peut vraiment vous identifier. Et si seulement on sait que non, vous êtes seul, on peut soit vous ravir les sacs ou soit vous agresser et créer d'autres dommages.
Forcément. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, princesse, hein, du côté de Kinshasa. Merci de nous avoir appelé. Alicia Lugan, la question de la sécurité, ça revient souvent, honnêtement, dans votre cabinet, que ce soit en France ou en Espagne.
Bah, c'est vrai que c'est le sujet. Bah, le problème, c'est que c'est un sujet qui peut être aussi instrumentalisé politiquement, oui. Qui permet aussi parfois de stigmatiser certaines populations. Moi, je suis assez dérangée finalement pour parler de la prise en compte du genre dans l'aménagement, ce qui convainc, c'est le sujet de la sécurité, parce qu'il y a bien d'autres sujets qui sont importants dans la question de la prise en compte du genre dans l'aménagement. Mais il est vrai que dans les différents processus participatifs qu'on a l'occasion de faire pour des divers projets d'aménagement, on s'aperçoit bien que parmi un certain nombre de sujets, les sujets du sentiment de sécurité, ce sont quasi exclusivement des femmes qui le soulignent. Parce que nous, dans tous nos processus participatifs, on fait vraiment attention à relever systématiquement qui parle, donc, que ce soit du point de vue du genre ou de l'âge. Donc on est capable de faire un peu d'avoir cette perspective-là. Et c'est vrai qu'on constate que c'est beaucoup des sujets plutôt féminins, de préoccupations plutôt féminines. Quoi.
C'est le constat que vous faites aussi, Corinne Luxembourg, tout en faisant attention aussi à une récupération politique aussi de cette thématique.
Oui, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, on ne parle pas d'insécurité, mais de sentiment d'insécurité. Et que plus encore, en fait, moi, je préfère parler de la peur, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Et à partir du moment où on déplace ça sur l'émotion que l'on ressent, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais ça veut dire que la peur même que l'on perçoit, et on entend bien dans ce que raconte Princesse ouais. Tous les dispositifs qu'elle met en place, les attentions qu'elle met en place pour éviter qu'il se passe quelque chose, on va le retrouver bien sûr dans tout un tas d'autres pays, tout un tas d'autres villes. Mais ce qu'il y a de commun, c'est la peur que les femmes transportent avec elles, qui est là une réelle violence. Mmh. C'est-à-dire qu'avant même qu'il se passe quelque chose, le fait même de devoir marcher la trouille au ventre en se disant « Ah, il faut que j'éteigne mon téléphone parce que peut-être il va m'arriver un truc, peut-être je vais me faire repérer si je suis toute seule, etc. » Ou que l'on va trouver en France, par exemple, où là, ça va être l'inverse. On va dire « Ah, il faut que je montre que j'ai quelqu'un au bout du fil, comme ça, vrai. Si jamais il m'arrive un truc. »
Chacun ses stratégies. Quoi.
Voilà, chacun a des stratégies, mais la peur, c'est vraiment la prise de contrôle sur le corps des femmes et qu'on a intériorisé. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est à la fois le patriarcat qui dit « Vous devez avoir peur parce que vous êtes des êtres vulnérables », Et en même temps, on nous le répète depuis qu'on est tellement petite, qu'on l'a intériorisé et qu'on transforme et on transporte ce rapport de force-là avec nous.
Allez, on continue à parler de la place des femmes dans l'espace public et dans nos villes. Après Faye des Réma et Boubalou sur RFI.
Ya no quiero estar sin ti, pero no es lo mismo si no estás aquí. No me di cuenta y te perdí. Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi. Dulcecita flow trululú, cremita de coco nu, un masajito pa' que después me suelte ese ubalú. La cama hace tu tu tu, pa' mí que me hizo vudú. De todas las mujeres que hay en el mundo, la más chimba eres tú.
Me hace falta tú.
Avec Boubalou, un titre à retrouver sur la playlist de RFI dans 8 milliards de voisins et de voisines. On parle de la place des femmes dans les villes et les espaces publics avec nos invités Corinne Luxembourg, géographe, professeure en géographie et aménagement à l'Université Sorbonne Paris-Nord et fondatrice de l'association Les Urbaines. Alicia Lugan, urbaniste, directrice France chez Equal Sari, une agence féministe d'urbanisme et d'architecture. Et avec vous, bien sûr, qui nous écoutez au 33 7 64 45 51 41. On a un nouvel appel de Kumba de Bamako à Mali. Bonjour Kumba.
Bonjour Laurence.
Merci d'être avec nous. Alors pour préparer cette émission, vous nous avez confié que bah voilà, aller seule en tant que femme dans un resto ou un café à Bamako, ça reste mal vu, c'est ça ?
Ça reste mal vu. En fait, culturellement, si vous voulez, les gens n'ont pas l'habitude de ça. Donc pour se rendre dans ce genre de lieu, il faut être soit en groupe et idéalement accompagné des hommes. Si vous voulez, c'est pas encore dans la culture malienne, en fait.
Ouais. Et parce que quoi, c'est des lieux pas vraiment mixtes, c'est majoritairement masculin.
Non, du tout. C'est mixte. C'est juste que pour le moment, en fait, il faudrait peut-être qu'un petit travail soit fait sur la mentalité des Maliens, qui comprennent qu'une femme peut décider seule d'aller s'asseoir à un café sans forcément être en attente, par exemple, de la de l'appel d'un homme ou de la visite d'un homme.
Ah oui, c'est ça.
Sinon,
quoi.
C'est complètement mixte, mais c'est la mentalité qui bloque, en fait, à ce niveau-là, pour le moment.
Oui, enfin, l'air de dire que, quoi, quelque part, on n'y va pas uniquement parce que pour se faire draguer, quoi.
Exactement, ouais, exactement. C'est bien ce que... ça.
Vous nous avez aussi raconté que, voilà, c'est un peu compliqué aussi, point de vue lumière, éclairage public, et on sait ça, passer une certaine heure à Bamako.
Oui, passer une certaine heure, il y a certains quartiers où on peut clairement pas du tout s'y aventurer en tant que femme. Seule, non, c'est pas possible.
Ah ouais, donc
pas possible. On peut être victime d'harcèlement ou voire même d'agression dans certains quartiers.
Donc du coup, on évite de sortir passer une certaine heure, alors, si je vous comprends
exactement,
bien.
Exactement. Ouais. La limite étant, comme on le dit ici, le crépuscule. Au-delà du... Les Maliens considèrent que la femme doit être chez elle au plus tard au crépuscule, donc à la tombée du soleil.
Ah
au-delà
ouais.
de ça, bon, c'est pas tout à fait normal.
Ouais, c'est ça. Ouais, comme vous le dites, il y a encore du boulot, hein, à faire d'un point de vue culturel. Merci pour votre témoignage, Kumba de Bamako, au Mali. Alicia Lugan, on le sait, franchement, l'urbanisme, l'aménagement ne pourra pas tout régler, hein, aussi dans nos villes.
Oui, absolument. Moi, c'est une formule que j'aime bien utiliser, qu'en effet, l'aménagement ne peut pas tout. L'aménagement, c'est vraiment comment ne pas reproduire des situations inégalitaires qui peuvent être, qu'on pourrait qualifier d'handicapantes, que d'ailleurs, plus que des personnes handicapées, c'est surtout des situations handicapantes qu'on crée dans l'aménagement, via l'aménagement. Mais c'est sûr que après il y a d'autres sujets qui sont de l'ordre de d'un changement culturel. Alors après, l'un va pas sans l'autre, on dit que la société et l'espace fonctionnent l'un dans la main, mais exactement. Donc travailler là-dessus sur l'aménagement, ça invite forcément à avoir des réflexions plus globales sur des politiques publiques aussi, de sensibilisation à l'égalité. Mais ce qui d'ailleurs rend intéressant des démarches du type les budgets sensibles au genre, qui là sont des outils qui travaillent plutôt à l'échelle des politiques publiques avec des analyses de comment est-ce que justement l'argent qu'on investit publiquement pour la culture, pour la communication, le sport, etc. Comment ça peut être investi au profit d'une démarche de réduction des inégalités et qui serait intéressante à mener un peu systématiquement en combinaison avec un travail sur des projets d'aménagement, parce que finalement, les projets d'aménagement, c'est parfois un peu un one-shot. En ce moment, c'est parfois un peu une vague, si je voulais être cynique, je dirais business, sur lesquels peuvent surfer
la com, quoi,
certains,
vous voulez dire.
Oui, voilà, une opération com, le gender washing, quoi, maintenant, comme on pourrait dire.
Donc, le greenwashing.
C'est vraiment une approche bien plus globale qui, nous, d'ailleurs, se porte sur des recommandations vraiment de l'aménagement. Voilà, on va pouvoir travailler sur les sujets de la lumière, je sais pas, la question de l'accessibilité, la question de l'accueil du soin dans la ville, donc les sujets liés aux toilettes, à l'eau, etc. Mais on va aussi travailler sur, dans les processus participatifs, comment on favorise la diversité. Ça va être aussi idéalement comment est-ce que dans les équipes de projet, on travaille la diversité, comment est-ce que chaque personne qui s'implique dans le projet est sensibilisée à ces sujets-là. Ça va être aussi comment est-ce qu'on traite ses partenaires, parce que c'est bien joli de vouloir faire de la prise en compte du genre dans l'aménagement, mais quand après on traite ses prestataires, donc puisque moi je suis en général prestataire de manière complètement scandaleuse, on va dire que il faut balayer devant sa porte avant d'aller balayer devant celle des autres. Et en effet, la question de l'interaction entre les projets d'aménagement et plus généralement une politique publique générale de réduction des inégalités serait intéressante.
Faites un peu le même constat ou pas, Corinne Luxembourg ?
Oui, bien sûr. Il y a des constats équivalents, et c'est vrai que la question de « Ah tiens, le genre est à la mode et on va s'en saisir parce que on a bien compris que ça faisait partie des choses qu'il fallait mettre en avant et sur les... Voilà, où il fallait cocher la case quand on est parfois une municipalité. » Alors souvent, d'ailleurs, assez peu engagé sur les questions de genre au départ, mais sauf que là, on se dit « Ah tiens, il faudrait faire ». Mais ça marche aussi, Alicia le sait bien, dans certains bureaux d'études, qui se disent « Ah tiens, là, il y a un peu d'argent à se faire, et donc on va aller chercher quelques chercheuses par exemple en disant ah tiens si tu pouvais me présenter des travaux et puis je pourrais les valoriser mon compte. Donc voilà, mais on a connu ça pour le développement durable, ça assez régulièrement.
Je vous propose de continuer à parler sécurité des femmes dans l'espace public. Après, on parlera de vos réalisations concrètes à vous aussi. Mais c'est un sujet qui, en tout cas, préoccupe pas mal nos auditrices. Et là, on va du côté du Mexique.
Être voisin, c'est partager le même esprit, c'est partager les mêmes envies.
8 milliards de voisins.
On n'est rien sans l'autre.
Et nous sommes avec Gwendolina Duval. Bonjour Gwendolina.
Bonjour Laurence.
Vous êtes notre correspondante à Mexico. 2/3 des jeunes filles et des femmes déclarent avoir été agressées au moins une fois dans leur vie. 10 de femmes sont assassinées chaque jour dans l'espace public. Est-ce que des mesures sont prises à Mexico ?
Oui, Mexico a lancé en 2019 un programme qui s'appelle Chemin Sûr. La promesse est de dire aux femmes marcher librement et en sécurité. Concrètement, la ville a identifié plusieurs points chauds dans la capitale et dessiné des itinéraires que les femmes pourraient emprunter. Il y en a quelques-uns, Iztapalapa par exemple, un quartier assez populaire et assez excentré, donc les femmes doivent souvent se déplacer la nuit, partant tôt ou revenant tard du travail. Donc ce sont des rues où l'éclairage a été renforcé, des caméras ont été installées, même les murs ont été peints avec des fresques colorées pour rassurer celles qui y passent. Ces zones se sont multipliées ces dernières années, la ville a refait plusieurs centaines de kilomètres pour ce programme. Et dans un autre quartier aussi, à Tlalpan, des boutons de sécurité ont été installés en cas d'urgence. Ils sont reliés à des haut-parleurs. Il y a une ligne téléphonique et un numéro d'urgence. La ville de Mexico a été en quelque sorte pionnière sur ce sujet, notamment en ce qui concerne les transports. Depuis 2007, il y a dans le métro de Mexico des wagons roses. Littéralement, ils sont peints en rose et réservés exclusivement aux femmes et aux enfants. Un homme qui y rentrerait pour voyager pourrait recevoir une amende. Même sur le quai, l'espace est séparé et gardé par un agent de sécurité.
Alors Gwendolina, on se doute que Mexico n'a pas forcément réussi à éradiquer la violence contre les femmes avec un seul bouton de sécurité.
Évidemment, tout cela, ce sont des solutions pansement, des mesures partielles qui traitent d'un problème très global. Parce que le machisme est ancré bien profondément et il faudrait un changement de mentalité important aussi par ceux qui vivent dans l'espace public. Finalement, les cas de harcèlement et d'abus sexuels dans la capitale, dans ces mêmes zones, n'ont pas cessé d'augmenter malgré les programmes Chemin Sûr. Et quand bien même un bouton est pressionné par une femme en détresse, il faudrait que la police ou les autorités réagissent. Et ça, c'est tout le problème au Mexique. La police est une administration très défaillante. Elle manque de moyens et elle est elle-même très machiste. C'est un calvaire pour les femmes de déposer plainte et très souvent, elles ne sont tout simplement pas reçues. Donc le travail manquant pour permettre aux femmes de s'approprier l'espace public et les services publics est énorme. Et on en est encore très loin. Finalement, à Mexico, les mesures sont des questions d'image de la ville. On peut aussi le voir comme un message, même si c'est très peu. Il y a cette petite conscience que le problème existe et qu'il faut s'en occuper.
Voilà, d'ailleurs, est-ce que le Mexique va prendre d'autres mesures, hein, parce qu'on sait que Mexico fait partie des villes qui ont intégré un engagement global de l'ONU pour prévenir la violence de genre.
Clairement. Si les effets ne sont pas encore vraiment là, la sécurité des femmes dans la ville de Mexico est un sujet. La conscience de la violence de genre a explosé aux yeux des pouvoirs publics, notamment grâce à des gros mouvements féministes qui ont émergé il y a quelques années. Donc le sujet est devenu, au moins à Mexico, un thème politique. Après voilà, nous parlons seulement de la capitale. Et au Mexique, eh bien, il y a de très nombreuses autres villes, tout autant, voire plus dangereuses pour les femmes, et où absolument rien n'est fait. Idem pour les zones rurales où la perspective de la femme dans l'espace public est juste complètement oubliée. Et puis nous allons voir s'il y a des évolutions prochainement puisque le Mexique est entré en période électorale. D'ailleurs ce sont deux femmes qui se disputent la place de présidente dont l'ancienne maire de Mexico. Donc peut-être qu'avec une femme au pouvoir il y aura plus de place pour elle dans la vie publique et dans la manière dont sont faites les politiques.
Peut-être à suivre. Merci beaucoup Gwendolina Duval, notre correspondante à Mexico. Alissa Lugan, vous qui vous dites voilà, c'est un cabinet d'architecture, d'urbanisme féministe, en quoi vous travaillez, parlons concret là, en tant que femme et en tant que féministe, en quoi vous travaillez sur des sujets, sur les aménagements justement au profit des femmes auxquels bah, peut-être certains architectes hommes n'auraient pas pensé, sans être dans la caricature non plus, hein.
Vous voulez dire les thématiques, enfin en tout cas les paramètres qu'on intègre dans la conception des espaces ?
Tout à fait.
Alors ben déjà il y a la question de bon, on l'a déjà pas mal évoqué donc je vais pas revenir davantage dessus, mais nous on a vraiment ce paramètre de la question de l'autonomie dans les espaces publics qui est la combinaison à la fois de l'accessibilité mais du sentiment de sécurité. Ensuite il y a évidemment, vous l'abordiez en début d'émission, la question de la connectivité et de la mobilité, donc quel type de mobilité on priorise finalement dans les aménagements, parce que nous on travaille quand même essentiellement sur de l'espace public, enfin quasi exclusivement d'ailleurs, et donc comment est-ce qu'on met la marche avant tout au cœur de la conception des espaces publics, parce que ce qui est assez marrant c'est que dans les dogmes précédents d'urbanisme on mettait la voiture au centre de la, de la production urbaine et aujourd'hui on met le vélo. Et donc on remplace un dogme plutôt à destination des hommes par un nouveau type de mobilité qui est plutôt à destination des hommes.
Le vélo c'est pas mixte, hein. C'est pas mixte, hein.
Non. Le vélo, statistiquement, c'est davantage utilisé par les hommes comme mode de transport. Les hommes, ça va être le vélo, la voiture. Les femmes, davantage les transports en commun et la marche à pied. Le vélo, tout simplement, parce que, comme on socialise les femmes à se sentir plus vulnérables, à moins être en extérieur, à moins être dans une dimension sportive, ben, nécessairement, le vélo, dès que c'est pas sécurisé, ben, les femmes, elles vont éventuellement le délaisser parce qu'elles veulent pas se mettre, elles craignent de se mettre en danger.
Ouais, donc, faut développer des pistes cyclables plus sécurisées, en fait. Hein.
C'est ça. C'est la condition, c'est des pistes cyclables, oui, mais pas des petites pistes cyclables, à minima, quoi. C'est des vraies pistes cyclables. Sinon, vaut mieux mettre la marche au cœur de la production des espaces publics plutôt que de mettre le vélo, mais d'une telle manière que ça ne serait pas propice à n'importe quel type d'usager. Donc, il y a ce sujet-là. Il y a la question de la diversité. En fait, c'est vraiment le fer de lance de mon point de vue des sujets d'inclusion, parce que au-delà des catégories avec lesquelles on travaille, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, c'est ce que évoquait Corinne tout à l'heure, c'est la question de l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'il y a une grande diversité dans chacun de ces publics-là, et finalement, pour espérer répondre à cette diversité, c'est d'abord promouvoir une diversité d'ambiance, d'aménagement. Qui peut se jouer à l'échelle d'un projet dans le cas où le projet est suffisamment généreux, mais qui, moi, de mon point de vue, se joue aussi beaucoup à l'échelle du quartier et de quelle offre une quartier ou en tout cas dans 15 minutes à pied de chez soi on propose en termes d'espace public. Le dernier sujet, c'est le sujet du confort et du soin, évidemment. Donc, comment ça va être tous les sujets, notamment liés à la présence de toilettes dans l'espace public, qui est vraiment contraignante pour les femmes, à la question de l'eau aussi, de la présence de l'eau, tout ce qui est question de survie dans l'espace public et de confort qu'on prend en fait assez peu en compte, même pour les espaces masculins d'ailleurs. Stéréotypé masculin.
C'est ça. Avant de redonner la parole à une nouvelle auditrice, on a beaucoup de femmes qui nous appellent forcément. Autre question, vous l'évoquiez tout à l'heure un petit peu, Corinne Luxembourg, l'habitat, le logement. Vous travaillez là en ce moment sur des logements égalitaires. C'est quoi ? Racontez-nous, c'est quoi ce concept ?
Alors, la question du logement égalitaire, donc c'est à Villiers-le-Bel en région parisienne et c'est un bailleur social qui s'appelle Val-d'Oise Habitat. Qui a passé un appel d'offres pour construire 35 logements égalitaires. Donc c'est un appel d'offres qui est financé entre autres par l'ANRU, mais donc par Val-d'Oise Habitat, par la ville de Villiers-le-Bel, et qui fait suite au travail de Jean Réville, donc qui est un bureau d'études qui travaille depuis fort longtemps maintenant sur la question du genre dans l'espace public. Moi, je suis en groupement avec l'agence d'architecture virtuelle pour concevoir ces 35 logements égalitaires. Et donc, et avec Eugénie Le Bigot aussi, qui est géographe. Et donc, l'idée, c'est quand on construit du logement, comment on le construit et comment on fait pour que ce soit le plus... Que ça permette, justement, on parlait d'autonomisation, mais que ça permette le plus d'émancipation et aussi le plus d'intimité pour les femmes.
Alors, ça ressemblerait à quoi, pardon, concrètement, ces logements égalitaires ?
Alors, concrètement, un des points, par exemple, qui va être les plus marquants, c'est la fameuse pièce à soi, si on revient à Wolf. C'est-à-dire, quel type d'espace on peut mettre dans un logement pour que cet espace-là, il puisse être à soi quand on est une femme et qu'on puisse à un moment donné respirer et se mettre en dehors de la famille. Ce qui ne veut pas dire qu'on les abandonne, qu'on a cette
pièce vitale
et qu'il y a un endroit où on peut se ressourcer. Et voilà. Donc ça, c'est une première chose, par exemple. Ça peut être aussi un endroit d'autonomisation où on se dit, cette pièce-là, elle peut s'ouvrir vers autre chose. Ça peut être des aménagements de type placard, où on se dit, avant de rentrer dans le logement, on va se déposer de tout ça.
De tout le reste, ouais.
Ça peut être des espaces aussi de stockage de nourriture, qui sont des mini-celliers ou des endroits où on peut déposer les courses et puis vaquer à d'autres choses. Ça peut être des endroits aussi de cuisine collective ou de buanderie collective ou d'endroits où on peut surveiller les enfants de tous les immeubles ensemble.
C'est à la fois et le collectif et le communautaire et aussi un peu de temps pour soi.
C'est ça.
Allez, je vous propose d'aller du côté du Sénégal pour un dernier appel.
8 milliards de voisins.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Et entre nous, là, entre les voisins. Hein?
Ouais, c'est ça.
On est peut terminer avec une note un peu plus positive. Khadija nous appelle de Dakar, bonjour.
Bonjour Laurence.
Alors, je crois savoir que vous l'aimez bien, votre quartier. Hein?
Bien sûr.
Alors, à quoi il ressemble, votre quartier?
Mon quartier, ça suit tout d'abord. Désolée, le mal de jour. Mon quartier est situé au centre-ouest de la capitale.
Oui.
Et en plus, c'est pas loin de l'océan Atlantique. Je me sens bien à l'aise là-bas. Il y a presque, j'ai fait mon collège et mon lycée dans ce même quartier. Ça est situé à moins de 10 minutes de marche. Je me sens en sécurité là-bas. C'est un petit quartier résidentiel.
C'est ça, et c'est pas loin de la mer, et je crois savoir aussi que vous êtes un peu sportive, et qu'il y a des espaces publics pour faire du sport aussi, c'est ça?
Oui, effectivement, et ces espaces publics pour faire du sport, ça se trouve précisément pas loin de la mer.
Eh ouais, d'accord, et donc aucun problème, il y a aussi bien des filles et des garçons.
Oui, c'est mixé.
C'est ça. Bah écoutez, c'est bien. En tout cas, on est ravis que vous soyez bien dans votre quartier. Merci beaucoup, Khadija. Oui, les équipements sportifs, c'est une vraie question, ça aussi, en termes d'accessibilité ou de mixité aussi dans les villes et les espaces publics, Alicia Lugrand.
Oui, absolument. Ça fait partie des espaces, à la fois des programmations de l'espace public un peu stéréotypé, enfin classique. En fait, c'est un produit qu'on achète les espaces sportifs souvent.
C'est ça.
D'ailleurs, on fait pas forcément appel à des paysagistes. Ça passe pas forcément par ce système-là. C'est plutôt des producteurs de mobilier urbain, quoi. Mais effectivement, ça pose question. Ce qui pose question sur ces espaces, c'est surtout que en tout cas pour rendre ces espaces le plus mixtes possible, l'enjeu c'est quel type d'agrès sportif on promouvoir, quelle partie du corps est-ce qu'on va proposer de solliciter. Ce dont on s'aperçoit, c'est que souvent dans les street workouts, c'est souvent la mobilisation des parties hautes du corps qui, dans les stéréotypes de genre, sont plutôt des parties travaillées par les hommes.
Les bras,
et
des
on
gros
a
muscles.
Beaucoup, exactement, les bras, les pectoraux, tout ça. Et après, il y a la question des niveaux des agrès. C'est-à-dire du niveau de compétence sportive, d'appétence sportive qu'il faut avoir pour faire tel ou tel agrès. Souvent, on a des barres de traction. À titre personnel, je suis assez sportive, j'ai jamais su faire une traction. et je pense que c'est... Donc en fait, on se retrouve non seulement avec des... avec des hommes, parce que ça correspond à leurs agrès, mais aussi c'est des hommes qui sont très... qui ont un très bon niveau sportif. La solution pour diversifier, c'est en effet mettre des agrès différents. Oui. C'est penser pas que sport performance, mais sport loisir et entretien, sport santé. Et pour le coup, il y a un très bon exemple à Paris de
très rapidement parce qu'on
arrive à la
fin
de l'émission. Un très bon exemple le long du canal de l'Ourcq, où justement ils ont diversifié tout ça, et c'est un des rares street workouts où j'ai vu une diversité de public.
Il nous reste 20 secondes, Corinne Luxembourg. À Caen, plus de noms de villes qui portent des noms féminins. 90% des noms des plaques dans les villes européennes sont des noms masculins. Ça aussi, c'est une vraie question, mine de rien. Il reste très très peu de temps.
Ben, c'est des choses qui avancent de plus en plus, qui avancent sur les nouveaux quartiers qui sont en train de se construire, qui souvent sont périphériques. Mm-hmm. Et après, il y a des villes comme la ville de Bonneuil qui, l'année dernière, a pris une décision municipale de changer une grande partie du nom
de toutes les plaques
des rues de sa ville pour arriver à la fois par... des noms qui représentent la population de Bonneuil, c'est-à-dire vraiment en ouvrant large au monde et en transformant aussi le paysage des noms. Donc ça passe avec des volontés politiques, on arrive
on
à faire des choses.
Même si ça prend du temps. Merci beaucoup Corinne Luxembourg, merci Alicia Lugan. On continue à parler.
Merci
à vous de sport dans quelques instants avec un reportage de Tom Malki sur la Fédération de foot d'Albanie. C'est tout de suite après la caravane passe. Trio et Oriane Lacaille avec ce titre Exode exotique.
Fini le temps des sédentaires, du monoculturalisme. Qui veut poser six pieds sur terre? Qui veut s'échapper de l'abysse? Qui veut sortir du RER, s'enfuir du métropolis? Qui cherche station outre-mer?
Heureux qui kiffe comme Ulysse.
Je m'envole pour l'exode exotique.
Passe le métro, tequila pas fait rôder haut. Pour les oreilles, passe le métro, dodo zamal et soleil. Pour le nickel, passe le métro, pose nakamal et motel. Des colonies, du touristique,
des cartes postales d'Amérique.
Je m'envole pour l'exode exotique.
Redécouvrir l'amour biblique.
Exode exotique.
Naturisme en triste tropique.
Exode exotique.
Fumer des herbes aromatiques.
Exode exotique.
La spéléo, le gaz de schiste.
Exode exotique.
Un tsunami en ski nautique.
Exode exotique.
Un juilletiste djihadiste.
Exode exotique.
Un dernier chant sur le couchant.
Oh, yala.
Allez, après la caravane passe, Trio et Oriane Lacaille sur RFI, direction l'Albanie, à la rencontre de jeunes filles footballeuses de la Fédération de foot d'Albanie. Un reportage signé Tom Malki.
Bonjour, je m'appelle Regina, mais tout le monde m'appelle Réa. J'ai 18 ans, ça fait 6 ans que je suis joueuse de football professionnelle et c'est génial.
Est-ce que vous vous rappelez de votre premier match ?
Oui, je m'en souviens un peu. J'étais contre le club de Shkodër. Nous avons gagné et j'ai marqué mon premier but.
Et alors, comment c'était ?
C'était super parce que quand j'étais enfant, je ne rêvais que de jouer au football. En Albanie, on pense que le football, ce n'est pas si bien pour les femmes. Donc quand j'ai commencé et mis mon premier but, c'était incroyable. Comme un rêve qui devient réalité.
Pourquoi est-ce que vous dites que ce n'était pas si bien que ça ?
Because in Albania, people still Parce qu'en Albanie, les gens n'acceptent toujours pas que les filles puissent jouer au football. Ils disent que nous devrions avoir honte d'y jouer.
Avez-vous déjà eu le sentiment que vous ne pouviez pas jouer au football ?
Oui, ma mère ne l'acceptait pas au début car elle pensait que c'était un sport masculin. Mais ensuite, elle a vu que j'étais douée et elle a dit « Ok, allons-y ». Mon père a été mon plus grand soutien parce que c'était un ancien joueur. Il a joué pour l'académie de Tirana jusqu'à ses 19 ans avant d'arrêter. C'est lui qui a vu mon potentiel quand j'avais 6 ou 7 ans. Je jouais toujours avec les garçons, j'étais douée. Aujourd'hui, ma mère est un immense soutien. Pendant l'année, j'ai connu un moment difficile et j'ai songé à arrêter le football. Et c'est ma mère qui m'a aidée à tenir. Elle m'a dit « Continue, tu aimes ce sport et tu dois continuer ».
Je m'appelle Resida, j'ai 22 ans, je vis ici à Tirana et je joue pour l'équipe de Tirana depuis 6 mois maintenant.
Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir une joueuse de football professionnelle ?
C'est quelque chose qui était en moi depuis toujours. J'ai commencé par jouer avec des garçons et après je ne pouvais plus m'en passer.
Est-ce que vous avez toujours eu le sentiment que vous aviez le droit de jouer, même quand vous étiez une petite fille ?
Oui, même s'il y a eu quelques obstacles, j'ai toujours eu le sentiment que je pouvais le faire. Et quand j'ai découvert que nous avions une ligue féminine, c'est devenu très facile pour moi. Les premières années étaient difficiles, mais maintenant ça va mieux. Les salaires, les équipes, ils font plus attention à nous, les conditions s'améliorent.
Pourquoi est-ce que vous dites que ça s'améliore aujourd'hui ?
Parce que l'UEFA et FIFA font des projets pour nous développer.
Parce que l'UEFA et la FIFA mettent en place des projets pour nous permettre de nous développer, pour permettre aux jeunes filles de commencer à jouer. Et ils commencent à nous aider. Tous les pays aident pour permettre qu'il y ait plus de filles qui jouent au football.
Je m'appelle Florian Riza. Je suis un ancien joueur de football. Depuis 5 ans, je travaille pour la fédération en tant que directeur du foot féminin. On travaille en étroite collaboration avec l'UEFA et la FIFA au développement d'une stratégie pour le football féminin.
Et justement, cette nouvelle stratégie, qu'est-ce que c'est ?
Tout d'abord, il s'agit de donner la possibilité de jouer à tout le monde, créer de nouvelles équipes pour tous les âges. Pour les jeunes, les moins de 11 ans, les moins de 13 ans et les moins de 15 ans. Il s'agit aussi de créer des équipes de foot dans les écoles. À ce jour, nous avons 67 équipes de foot dans toute l'Albanie. Et nous avons 6 championnats séparés et environ 1200 filles qui participent à ce projet. Et puis, nous pensons qu'il nous faut connecter les écoles et les clubs. Pour cela, on a organisé des passerelles vers les clubs pour les moins de 15 ans qui remportent chaque championnat, comme la Ligue nationale des moins de 17 ans, puis vers les grandes ligues que sont les championnats d'élite pour femmes en Albanie.
Est-ce que dans le monde du football professionnel, il y a autant d'opportunités pour les femmes que pour les hommes en Albanie ?
Il y a encore beaucoup de travail pour arriver à ce résultat, mais nous travaillons très dur pour réduire les écarts. Chaque club masculin devrait avoir une équipe féminine dans sa structure. Chaque club qui a développé ou créé ou établi une équipe de football féminin est récompensé avec de l'argent. Nous mettons aussi en place des dispositifs incitatifs pour porter ensemble le football féminin au sommet.
Et oui, des incitations financières pour plus de parité dans le foot en Albanie. Un reportage signé Tom Malki, notre sportif. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Romain Dubrac, Juliette Brou, Delphine Cachin et Tom Malki, justement. On se retrouve demain à la même heure pour la Journée internationale des droits des femmes. Et on va parler d'un sujet ô combien tabou, l'argent et le patrimoine dans les couples et les familles, entre mariage, divorce ou héritage. On sort les calculettes et on va voir quelles sont plutôt les grandes perdantes sur le plan financier. On se retrouve demain. D'ici là, belle journée à l'écoute de RFI.